vous présentons dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, Les délires de la création. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre. Attention, l'écran radiophonique est une marque déposée et ne peut être utilisée sans l'autorisation du propriétaire. Les œuvres qui sont sous cette marque sont la propriété de l'auteur. Monsieur, il s'incline et quitte la pièce. Honteux, la gorge serrée, perdu, elle se dit : bien fait pour toi. Je t'ai rappelé ton âge et montré ton retard. Bien fait, bien fait. Marche dans la rue, la tête en feu, sans oser penser. Quelle honte! Elle a compris les sentiments qui le lient à son fils. Elle lui a démontré que ça lui était nuisible. À moins que ce soit Sylvain qui lui ait dit de faire cette commission. Mais je ne pas le dire. Lui aussi a compris ce qu'il ressent pour lui. Je ne veux plus le voir. Elle demandait à sa mère de me faire comprendre le ridicule de nos rapports. J'allais dire liaison. Mon Dieu, ça avait été vrai. Au moins, j'aurais eu ce souvenir. Mon Dieu.
Au téléphone ?
Thank you.
Il arrive chez ses parents, il va directement dans sa chambre. J'ai perdu Sylvain, c'est fini. Peut-être, est-ce que c'est dans une de ses nouvelles que je lui ai fait lire, qu'il a pris sur moi. Mais je n'ai rien mis à moi. Il va dans son bureau, s'assoit, sort du tiroir les nouvelles et les lit. Après les avoir lues, je ne vois rien, à part que mon héros ressemble à Sylvain, mais il aime les jeunes femmes. Il n'y a rien, rien d'ambigu entre lui et l'homme. Il remet le manuscrit dans le tiroir. Je l'ai perdu. Voilà tout. Il reste assis tristement sur sa chaise, en essayant de ne pas penser. Au bout d'un moment, en sacrifice à son amour perdu, il décide de brûler les deux manuscrits. Ouvre le tiroir. Les regarde bien. C'est sûrement ses œuvres les mieux écrites, finies. Celles dont il est le plus fier. Mon sacrifice sera encore plus grand. Si Dieu existe, il comprendra. J'offre en l'Holocauste le meilleur de moi-même. Il se lève avec ses deux paquets de feuilles. Va vers la cheminée, se baisse, prend son briquet dans la poche de son pantalon, met le feu à des brindilles. Puis, une à une, il brûle ses feuilles, il s'empare vite et tombe en poussière dans la cheminée. Une fois que la chose est faite, il va s'asseoir sur un fauteuil. Il regarde les flammes. J'ai offert en sacrifice ce qu'il y a de mieux en moi, en échange. On a frappé à la porte. Entrez. C'est le domestique. Monsieur, vous avez une visite. Monsieur Sylvain Dupin désire vous parler. Il a le cœur qui bat. Mon Dieu, j'arrive. Bien, monsieur. Il vous attend au salon. Jules sort de la chambre en vitesse. Dépasse le domestique, descend les escaliers et ouvre la porte. Essoufflé, Sylvain est là, au milieu de la pièce, debout, le sourire aux lèvres. Jules se dit, mon sacrifice a été accepté. Merci mon Dieu. Il va vers Sylvain. Il le prend dans ses bras et lui dit « Ma mère m'a raconté ce qu'elle t'avait dit. Ne la crois pas, mon ami. Elle est folle, folle de jalousie. Mais elle ne nous empêchera pas de que nous continuons à nous revoir et à nous apprécier. Je lui ai dit qu'elle n'avait pas le droit de te dire cela. Après lui avoir dit ce que je pensais, j'ai couru te voir. J'avais peur de te perdre, de perdre ton amitié. Es-tu fâché contre moi ? Jules, tout heureux, lui dit : Non, je ne suis pas. J'étais tellement triste. surtout qu'elle avait dit que je t'ennuisais. Sylvain lui dit, c'est plutôt elle qui m'ennuie en m'empêchant d'être un homme, en me traitant comme un enfant. Jules se dit, c'est que Dieu existe. Puis il dit, allons nous asseoir et buvons, cela nous remettra de tout ça. Ils vont s'asseoir sur des fauteuils qui est en face d'une petite table. Où se trouvent des verres et une carasse de vin. Jules serre et dit, c'est du bourbon. Une fois qu'ils aient bu une gorgée, Sylvain lui dit, et surtout vexé parce que j'ai lu tes nouvelles et pas elles. En fait, je les trouve très bien. Merci de m'avoir mis en héros. Il faut absolument les faire publier. Je lui dis, j'en ai plus tellement envie. Je les trouve pas assez écrites. Sylvain le regarde surpris. Non, pas du tout. Elles sont très bien écrites. Et tu vas me faire plaisir de les faire éditer. Je ne sais pas. Sylvain le regarde bien et lui demande, qu'as-tu? Qu'est-ce qui s'est passé? Je lui dis, rien. Si je vois qu'il y a quelque chose, dis-le-moi. Je le rougis. Sylvain lui dit, monsieur Mami, tu dois tout me dire. Je te dis, c'est pour lui que je l'ai fait. Et dit, les nouvelles n'existent plus. Comment cela? Je les ai détruites. Et pourquoi? Pour une question personnelle. Sylvain semble comprendre. Ça fait longtemps que tu les as détruites. Je l'ôte ses épaules. Sylvain lui dit, tu veux rien me dire? Il baisse ses yeux et voit que les doigts de Jules sont légèrement noircis. Il lui dit, je comprends. Tu as fait cela à cause de ma mère, de ce qu'elle t'a dit. Je déteste. Elle vient de détruire les plus belles œuvres jamais écrites. Et cela par gaminerie, jalousie féminine. Jules se dit qu'il faut le laisser croire à cela. Ça vaut mieux que la vérité. Jules sourit et gonflé d'amour pour son ami. Il lui dit, ne sois pas triste, ne sois pas trop sévère pour ta mère. Elle t'aime tellement qu'elle a peur de ton avenir. Sylvain lui dit, il ferait mieux de ne pas s'en occuper. Il n'y a qu'une chose qui me ferait plaisir, c'est que tu aies réécrit ces nouvelles. Je lui dis, c'est impossible, on ne peut pas écrire deux fois la même chose. Sylvain lui dit, essaie, fais-le pour notre amitié. Je te le heureux, lui dit, je vais essayer, mais je ne te promets rien. Sylvain regarde sa montre et lui dit, je dois te quitter malheureusement. Je suis navré pour tout. Je lui dis, n'a pas à être navré. Tout est rentré en ordre, sauf le manuscrit. Lui dit Sylvain. Je lui dis, c'est que du papier noirci. Sylvain se lève, je lui aussi. Et il leur accompagne. Avant de se quitter, je lui dis, tu n'as pas à te faire du souci pour les manuscrits. Ils m'ont permis de te retrouver. Comment cela? Je souris et lui dis, c'est mon secret. Peut-être le mettrai-je dans une de mes histoires. Et il se sépare. Jules est heureux. Son sacrifice n'a pas été vain. Il a été entendu. Et tout à coup, il s'arrête au milieu du salon. J'étais entendu. Cela veut dire qu'on m'a entendu. La révélation m'est faite de son existence. Et si Dieu a voulu exaucer ma demande, c'est qu'il approuve mon amour pour Sylvain. Mais puisque Dieu existe, je dois vivre avec cette réalité. Et vivre comment? Moi, le pécheur qui est volé, tué, qui a voulu voler, qui aime une personne de son sexe, comment Dieu peut-il aider une personne comme moi? Mais moi qui ne le prie jamais, comment Dieu peut-il s'intéresser à moi? Pourquoi? Peut-être a-t-il trouvé de la sincérité dans ma demande et mon sacrifice était un vrai sacrifice. On dit que Dieu aime les pécheurs car il peut leur pardonner. Que de questions. Et d'abord, qui est Dieu? Qui m'a pardonné? Et celui des chrétiens? Comment le savoir? En tout cas, je l'en remercie. Il m'a rendu Sylvain. Pour y voir un peu plus clair, je vais écrire une histoire sur ce qui m'est arrivé. Et ce sera pour remercier Dieu. Il est heureux, tout est cité. Comme il n'arrive pas à dormir cette nuit, il se refait un résumé de toutes les histoires qu'il a brûlées pour Sylvain. Et après avoir fait son résumé, il s'est rendu compte qu'il se souvenait parfaitement bien de ce qu'il avait écrit et que s'il avait eu le temps, il aurait pu réécrire les deux nouvelles d'un coup sans résumé. Mais il a décidé, pour remercier Dieu, d'écrire une histoire sur sa gloire. Il veut écrire une histoire dans le genre des écrits que l'on faisait au Moyen-Âge. Sans pas de ridicule, bien entendu. Je ne veux pas écrire mon histoire, ce serait trop intime. Voyons. Un seigneur au Moyen-Âge qui habite la Bretagne, un homme fort brutal, sans foi ni loi, vit avec une femme plus jeune que lui. Il ne l'aime pas parce que pieuse et douce. Ils ont eu un enfant. La jeune femme fait de son mieux pour être une bonne épouse. C'est pas facile à cause du caractère du mari. Le mari va voir les filles, viole les paysannes de son pays. Se bat et violent, on l'appelle le diable. Les gens font le signe de la croix à son passage. Un jour, il tombe amoureux d'une jeune fille et veut en faire sa femme. Il tue sa femme d'un coup d'épée et se marie avec la jeune fille. Le jour de ses noces, elle embrasse un lépreux et prend la lèpre. Le Seigneur est effondré, car il l'aime vraiment. Les médecins lui disent qu'elle est perdue, mais à moins d'un miracle. Le Seigneur, par amour pour la fille, fait donc don de sa virginité et part en terre sainte se purifier de tout péché. En échange, il demande à Dieu la vie sauve de sa femme. Après plusieurs années de voyage, d'aventure, il retourne au pays, apprend que sa femme est guérie grâce à lui. Mais, comme il l'a juré, il décide de vivre en ermite dans la forêt. Sa femme l'apprend et lui fait dire par un moine qu'il est pardonné de toutes ses fautes qu'il peut revenir. Il ne veut pas revenir. Le moine lui dit « Dieu t'a pardonné et trouve que tu as assez fait pénitence, tu résistes à son pardon, tu pécheras de nouveau en faisant le péché d'orgueil. » Il décide de retourner vers sa femme. Malheureusement, la nuit qui est de noces, puisqu'elle n'a pas eu lieu, se passe mal, parce qu'il est incapable physiquement de faire son devoir. Les prêtres l'apprennent. Il faut annuler le mariage. La femme entre au couvent et lui retourne à son ermitage. Un jour, il écrit une lettre d'amour à sa femme. Que Dieu en a été touché et lui rend sa puissance. Il va voir l'évêque, lui explique ce qu'il a eu. L'évêque accepte une seconde nuit de noces qui rendra le mariage consommé. Le Seigneur est tellement heureux des bontés de Dieu qu'il est pris par la grâce et quitte sa femme pour entrer au couvent. Sa femme retourne dans le sien. Il comprend, son mari en est fier. Tous deux s'écrivent de belles et tendres lettres jusqu'à leur mort. Jules a fini son résumé. Il en est satisfait, mais se dit qu'il écrira plus tard une version plus près de la réalité. Les jours passent. Il recommence à se voir. La mère de Sylvain ne l'empêche plus, mais elle surveille. Un soir, le père emmène à dîner une de ses connaissances. Monsieur le marquis de Saint-Véran. La famille est au salon lorsqu'il arrive avec son invité. Ils sont entrés au salon. C'est un homme grand, sec, les cheveux blancs, visage émacié, très droit, habillé d'un habit noir. La famille se lève. Leur dit, je vous présente monsieur le marquis de Saint-Véran, un vieil ami qui est venu à Lyon pour acheter un hôtel particulier, ma femme. Madame, monsieur le marquis, je suis heureuse de faire votre connaissance. Mon fils Charles-André, jeune homme, ma fille Apolline. Mademoiselle, vous êtes très belle. Merci monsieur le marquis. Et Jules, mon dernier enfant, jeune homme. La mère leur dit, le repas va bientôt être servi. Si vous voulez bien vous asseoir et prendre quelques apéritifs. Oui, je veux bien, chère madame. J'ai fait 300 km en diligence. Et oui, les trains ne passent pas encore de partout. Je suis un peu étourdi. Si vous voulez bien me suivre, monsieur le marquis. La mère le mène s'asseoir dans un fauteuil près d'une table basse. Et les autres membres s'assoivent autour de lui. Un serviteur vient avec un plateau où il y a des boissons. Il va le déposer sur la table. Et sert l'invité et la famille. Avoir bu, le marquis dit, vous avez de la chance de vivre en famille. Moi, je vis seul avec des domestiques et une vieille gouvernante très autoritaire. Que vous avez de jolis enfants. Je le déteste lorsqu'il y a des invités parce qu'on le traite comme un petit garçon. On a frappé. Entrez.
C'est un domestique. Monsieur, madame, le repas est servi.
La mère se lève et dit, nous allons y aller. Ils se lèvent tous pour aller dans la salle à manger. Durant le repas, le marquis ne cesse de regarder Apolline et de lui sourire. Elle dit à Jules qui est à ses côtés, « Le vieux cochon !» Je lui dis, « Dans ces montagnes, il ne doit pas voir si souvent des jeunes filles et de jolies jeunes filles. De si jolies jeunes filles, je veux dire. » Elle lui dit, « Merci pour le compliment. » Je lui demande, « Tu préfères lui ou Sylvain ?» Elle lui répond, « Le vieux doit sûrement avoir plus d'argent. » Il lui dit, « Tu es une vraie garce ?»« Non, je suis pratique. » Et je te parie. Tout ce que tu veux, c'est que ma famille m'approuverait. Le marquis demande à Apolline, mademoiselle, aimez-vous la montagne? Elle fait la moue et lui répond, j'aime mieux la ville. Son père lui dit, elle est jeune. Elle dit à Jules, il ne doit pas avoir cet argent, ce bouseux. Je lui dis, donc, pas de mariage. Après le repas, ils sont allés au salon. Le marquis dit à la famille, je cherche un pied-à-terre à Lyon. C'est pour pouvoir y passer l'hiver. Et si j'ai à avoir un médecin, comme cela, je ne serai pas obligé à aller à l'hôtel. N'est-ce pas que j'ai raison, mademoiselle? Oui, monsieur le marquis. Vous avez une jeune fille charmante. Est-elle fiancée? La mère lui répond, non, monsieur le marquis. Tant mieux, elle a bien le temps. Charmante jeune fille, et qui a dû être bien éduquée. Apolline dit à Jules, et va donc, la jeune fille pieuse et innocente. Il se met le doigt dans l'œil, le vieux. Une semaine plus tard, Apolline sort de sa couturière et voit s'arrêter près d'elle un fiacre. La portière s'ouvre. Elle reconnaît le marquis de Saint-Véran. Oh, ma petite demoiselle, vous me reconnaissez? Bonjour, monsieur le marquis. Je peux vous déposer quelque part? Non, merci, monsieur le marquis. Cela me ferait plaisir. Une si jolie jeune fille ne peut pas marcher seule. Allez, montez. Bien, monsieur le marquis, si vous insistez. Elle monte dans le fiacre. Vous allez où? Chez mes parents, monsieur le marquis. Le marquis donne l'adresse au cocher. Que faites-vous tout seul? Je suis allé voir ma modiste. Ah, les femmes, les chiffons. Mais rien ne vous parie pour s'habiller. Si j'étais ma femme, je vous comblerais de cadeaux. Elle sourit et lui dit, je ne suis pas pressé de me marier. Oui, bien sûr, vous êtes si jeune. Moi, ce n'est pas la même chose. Mais je suis resté d'esprit très jeune. Et la personne qui se mariera avec moi sera très heureuse. J'en suis certain, monsieur le marquis. Le fiacre s'arrête devant l'entrée des beaux mandins. Elle dit, nous sommes arrivés. Oui, à bientôt, mademoiselle. Merci, monsieur le marquis. Il lui ouvre la portière et elle le quitte. Quelques jours plus tard, le marquis est dans le bureau du père. Ils sont tous deux assis. Le marquis vient de signer l'achat d'un petit hôtel vers la place Bellecour. Constant lui dit, « Vous venez de faire une très bonne affaire. 15 pièces, cour intérieure avec fontaine. L'hôtel est du 18e, en parfait état. Mais qu'allez-vous faire de toutes ces pièces, monsieur le marquis ?» Le marquis lui répond, « Pour le moment, je suis seul, mais peut-être qu'un jour je me marierai. Je vous le souhaite.
Constant va chercher dans le confiturier deux verres et une bouteille de vin.
Du Bourgogne, cela vous va ? Oui, merci. Et il pose la bouteille et deux verres sur le bureau et serre. Constant lui dit, il y en a qui préfèrent le Bordeaux. Ils trouvent que le Bourgogne est trop épais. Après avoir bu leur verre, le marquis lui dit, et vous avez une jolie fille, très charmante. Le père sourit lui dit, oui, très. Le marquis lui dit encore, je suis pas très jeune, 75 ans, mais encore un peu vert. Et la personne qui m'aura n'aura pas à se plaindre, j'ai de la fortune. Si par hasard je demandais la main de votre fille, Constant pense aux millions. J'en serais très flatté. Oui, bien sûr, mais est-ce que la jeune fille consentirait ? Je laisserai bien entendu le temps de mieux me connaître et de réfléchir. Le père demande, est-ce une demande officielle, monsieur le marquis ? Non, pas pour le moment. Je veux pas la brusquer. Je veux voir si elle accepterait cette idée. Elle semble si douce, si fragile. On dirait une poupée de porcelaine, blanche et maigre. Mange-t-elle à sa faim ? Oui, bien sûr, monsieur le marquis, mes jeunes filles sont comme ça. Le marquis regarde sa montre et lui dit, je dois vous quitter, mais nous nous reverrons, n'est-ce pas ? Revenez quand vous voudrez, monsieur le marquis. Ils se lèvent tous deux et Constant leur accompagne jusqu'à la porte. Le soir, Constant en parle à sa femme, parle de la conversation qu'il a eue avec le marquis dans la chambre de sa femme. Elle lui dit, c'est impossible, il a plus de 50 ans qu'elle. Qu'est-ce que ça peut faire s'ils s'entendent bien ? Comment veux-tu qu'ils s'entendent ? L'argent arrange bien les choses. Je ne crois pas qu'elle accepte. Il lui répond, tu ne la connais pas, elle a la tête sur les épaules, et c'est ce qu'elle veut. Charlotte hausse les épaules et lui dit, avec toutes les bêtises qu'elle a faites. Oui, cela montre qu'elle a du caractère, et qu'elle ne fait pas que rêver, elle agit. De toute façon, je ne lui dirai rien, c'est le marquis qui veut lui parler. Et si elle dit non ? Eh bien tant pis pour elle, les millions iront à une autre personne. Bonne nuit. Les jours passent. Charles-André continue toujours à travailler avec son père et à écrire aussi. Il rêve, c'est d'être un grand écrivain et de laisser de cet emploi de régisseur caissier. Ce n'est absolument pas intéressant et il se demande comment fait son père pour travailler aussi longtemps comme ça. Sa vie lui semble monotone et son salaire ne lui apporte aucune joie car il n'a pas le temps de le dépenser. Puis dépenser à quoi ? La drogue, il a fini. Les femmes, il s'en méfie car il ne veut pas se marier pour le moment. Il trouve ridicule sa sœur qui cherche à se marier. C'est pour cela d'ailleurs qu'il s'est éloigné d'elle. Mais heureusement que Charles-André a l'écriture. Tous les soirs après son travail, il va s'enfermer dans sa chambre pour écrire jusqu'à l'heure du repas. Là, au moins, il est chez lui, dans son monde à lui. Il écrit l'histoire d'une femme qui tombe amoureuse d'un portrait dans le journal. Elle a fait le centre de sa vie. C'est une femme modeste qui vit en faisant des ménages chez des petits bourgeois. Elle est très sérieuse, pas belle dans les 30 ans. Sa vie, aux yeux du monde, semble bien rangée et normale. Mais à l'intérieur d'elle, elle brûle de passion. Elle a fait encadrer le portrait mis sur le buffet, au-dessus du buffet du séjour. Et lorsqu'elle est seule, elle passe des heures à le contempler. Les jours passent et au fil des jours, elle ne vit plus, elle vit de plus en plus avec lui, lui parle, lui dit ses peines, ses joies. C'est comme si c'était une personne qui est veuve et parle à son défunt. En tout cas, c'est ce que croiraient les gens qui la verraient. Mais pas elle, c'est comme si le jeune homme vivait avec elle. Elle lui dit tout, ce qu'elle a fait, ses projets, lui demande son avis. La femme vit dans une folie douce qui ne nuit à personne et que personne ne fait attention. Elle a arrêté tout plaisir, toute sortie. Son seul désir après son travail, c'est de rentrer chez elle et de le retrouver. Des fois, dans une conversation, sans faire attention, elle dit « Mon compagnon ne dirait pas. » On serait heureux, ce n'est pas son genre. Ceci est très rare et les gens ne portent pas à conséquence. Le temps passe. Sans qu'elle s'en rende compte, elle est appelée Madame Veuve. Mais pas elle, son amour est bien vivant. Les gens ont inventé toute une histoire sur sa vie. Qu'elle était mariée à un militaire qui est mort à Sedan, qu'il a laissé sans ressources. Elle lui est restée fidèle. Le temps passe. Un jour, elle apprend, par hasard, dans le journal, qu'il sera en visite dans la ville et logera à tel hôtel. Elle est toute excitée et décide de le voir. Elle a tellement été habituée à lui parler durant toutes ces années qu'elle n'a pas peur. Le jour de son arrivée, elle va à l'hôtel, demande au concierge où se trouve monsieur. Surpris, il lui demande ce qu'elle lui veut. Elle lui dit qu'elle est une personne très intime. Avec hésitation, il lui donne le numéro de la chambre et il va décider, sûr d'elle, de son amour. Elle va lui dire qu'elle est amoureuse depuis de nombreuses années. Elle a mis sa plus belle robe, c'est bien coiffé, se trouve élégante. Enfin, après tant d'années, elle va le voir, lui parler. Elle frappe à la porte de la chambre. Entrez. Elle entre. Et là, elle voit un gros homme, petit à cheveux blancs, le visage jovial. Il la voit, s'approche d'elle et lui dit « Vous désirez, ma bonne dame ?» J'aimerais parler à monsieur. Je suis monsieur. Vous êtes son père? Non, malheureusement, mon père est mort. Vous l'avez connu? Tout à coup, elle s'attend toute drôle. Ses rêves s'effondrent. Après tant d'années, le jeune homme est devenu un gros monsieur qui ressemble à une grenouille. Elle a les larmes aux yeux et se sent toute retournée. L'homme lui demande « Vous êtes venu pourquoi ?» Elle lui dit en partant « Rien, rien, une erreur. » Toutes ces années passées comme ça, toutes ces années à aimer. Mais une fois chez elle, en regardant le portrait, qu'elle l'aime toujours, malgré tout, parce qu'il ne change pas. Elle se dit qu'elle l'a aimé durant toutes ces années, mais qu'elle l'a gardé jeune jusqu'à présent, alors que si elle l'avait connu, elle l'aurait vu vieillir. Maintenant qu'elle a vu la vérité en face, que va-t-elle devenir? Elle ne peut pas continuer à vivre ainsi. Elle aimerait déchirer le portrait, mais ne le peut pas, car elle l'aime encore. Elle a une douleur, comme si elle devenait vraiment veuve. Et comme plus rien ne la rattache à la vie, elle se laisse aller. Grande mélancolie la prend, mange peu, dort peu, se sent lasse. Un vide a remplacé son amour. Un matin, elle ne se lève plus pour aller travailler. Elle n'a plus envie de rien. Semaine plus tard, des voisins inquiets vont entrer chez elle en fracassant la porte et l'ont vue sans vie dans son lit. Elle s'est laissée mourir tout doucement. Personne n'a vu l'amour qu'elle a eu. Comme elle était sans famille, de propriétaire, pour se payer le loyer manquant, a vendu toutes les affaires, même le portrait. Il a été acheté par une jeune fille sage et romanesque qu'il a trouvé fort beau. Il l'a mis dans sa chambre, au-dessus de sa cheminée. Et, comme elle le regarde, ne va-t-elle pas l'aimer comme l'autre? La jeune fille vit seule, n'a pas d'amis, travaille dans un atelier de couture, rêve plus qu'elle ne vit. Le portrait du tableau est beau, il séduit à travers les âges. Il a l'âge de sa beauté. La jeune fille ne va-t-elle pas y succomber et vivre comme l'autre? Voilà l'histoire qu'a écrit Charles André. Après-midi, Charles André, après son travail, s'en retourne chez ses parents. Comme il fait beau, il rentre à pied en longeant les quais. Les gens qu'il croise sont peu nombreux, car c'est encore l'heure où ils sont à leur travail. Charles André a quitté plus tôt, il en profite que son père est absent. Il a perdu l'habitude de flâner et de ne pas rentrer tout de suite. Là, automatiquement, ses parents le mènent à sa chambre, le seul refuge qu'il a. Il n'a aucune relation et ses désirs physiques sont retombés en enfance. Comme cela arrive de temps en temps dans la vie d'un homme, on croit que la vie sexuelle est très agitée et beaucoup plus que celle d'une femme. En réalité, c'est faux. On n'est plus calme que la femme, mais cela ne se voit pas. Car la femme cache son excitation à cause de son éducation et pour ne pas être traitée de putain. Sa vie sexuelle est plus longue que celle d'un homme. Et la vie rangée que l'on impose aux femmes est contre leur nature. C'est ce qui les détraque nerveusement et mentalement. Les homosexuels qui doivent maîtriser leurs désirs sexuels sont détraqués de la même façon. donc que Charles-André s'en retourne chez ses parents, pensant à la scène qu'il va écrire. Pardonnez-moi, monsieur. Il sursaute et revient à la réalité. Un petit homme vieux, tout maigre, mais bien habillé, est en face de lui.
Il me semble vous reconnaître.
Moi ?
Oui, vous, à Paris. Nous sommes vus. Nous avons passé un moment ensemble fort agréable dans un terrain vague.
Charles-André se souvient.
Oui, c'est un de ces vieux qu'il a eu comme client. Il prend peur.
Vous faites erreur.
Oh que non. On ne peut pas oublier une personne aussi agréable. Je veux même vous décrire toute votre intimité.
Charles-André rougit,
se sauve. Mais malheureusement, il voit que l'autre le suit.
Que veut-il ce cochon ?
Il veut me faire chanter ?
Parler à ma famille ?
Quelle honte !
Il retourne et il voit qu'il continue à le suivre.
Je ne peux pas rentrer chez moi.
Il marche de plus en plus vite.
Vois qu'il n'y a pas de fiacre.
Mais non, il n'y en a jamais quand il le faut.
Il marche de plus en plus vite.
Pour se débarrasser de ce vieux, il entre dans un café.
Il dit au cafetier, un gros homme jovial, « Pouvez-vous me faire passer par une autre porte ? Je suis suivi. »«
Ah, je vois, un mari jaloux. Venez. »
Il le mène derrière son comptoir. Il fait passer par l'arrière-salle.
Il va ouvrir une porte.
Qui donne dans une cour.
Vous ouvrez la porte, là, au fond de la cour. Et elle vous donne à côté.
Merci. Il lui donne la pièce. Et traverse la cour pour ouvrir la porte. Il se trouve dans une rue déserte. Il continue sa marche.
Ouf, j'ai dû le sommeil.
Il reprend son chemin qui longe les quais de Saône, puisque sa famille habite le long de la Saône. Il marche d'un pas tranquille.
Ouf, j'ai échappé belle.
Arrivé chez ses parents, il va dans sa chambre, un peu essoufflé. Deux heures plus tard, après avoir écrit, il se sent un peu fatigué. Il se lève pour aller à la fenêtre. Nous avons présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, Les délires de la création, production, mise en scène, Julien Jean-Pierre.